on a écouté un peu plus le générique, comme on n'avait pas personne en direct, on s'est fait un petit coup de guitare, ça fait du bien dans les oreilles, ça décrase. Ça.
Et maintenant, on est à l'heure, donc, et quand on est à l'heure, c'est l'heure des coups de cœur.
Voilà. Donc, eh ben tiens, commence.
Alors, je vais commencer par un roman de Bill James, qui s'appelle « Lettres de Carthage » et qui est publié chez Rivage, dans la collection Rivage Thriller. Il est traduit par Fabienne Duvigneau. Donc, si vous ne le connaissez pas, Bill James, en fait, est un auteur gallois qui écrit en anglais et qui compte dans la collection Rivage déjà plus de 10 titres. La plupart mettent en scène son flic fétiche qui s'appelle Colin Harper et aussi le boss donc de Colin Harper qui s'appelle Desmond Hiles. Et ce sont d'ailleurs tout le temps des romans d'enquête, des romans de flics et de truands, des romans qui seraient assez classiques si en fait il n'imitait pas un humour noir, mais un humour anglais tout au long des pages. Mais là, avec ce roman, Bill James change complètement de genre, car en fait c'est un roman épistolaire dans le plus grand style anglais 18e siècle. Mais l'humour n'est pas non plus, il est plutôt carrément présent tout le temps. Alors les deux protagonistes principaux,
les pépés peut-être, si voilà. Tu veux carrément inventer un nouveau concept.
Effectivement, les protagonistes sont souvent principaux,
Ouais. Sauf
quand c'est des filles, alors c'est le programme principal. Bon bref, donc là il y a un homme et une femme, Gilles et Dennis Seagrave, et ils habitent Carthage. Mais pas, ça n'a rien à voir avec le Carthage de Hannibal et de César, et qui est de l'autre côté de la Méditerranée, non. Ce Carthage-là se trouve dans Tabet Drive, et c'est le nom de leur maison, dans une rue cossue d'une ville anglaise, qui n'est pas citée. Gilles, bien sûr, dans une rue cossue, elle ne travaille pas. Et les relations avec son mari, du moins au début du roman, vont de mal en pis. Du coup, elle prend un amant, malgré ce que l'on apprend un peu plus tard, les nombreuses parties fines, que le couple organise le week-end. Le mari, lui, il est assureur et fondu d'art taupière. Alors, vous allez me dire, l'art taupière, qu'est-ce que c'est ?
On connaissait l'art pompier, mais...
Voilà, et ben non, en fait, là, c'est juste la façon de tailler les haies, de façon artistique, en forme de kangourou ou de cormoran, par exemple. Ou de simple cercle ou ovale, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Art taupier, comme la taupe.
Taupière, je sais pas si c'est... Non, c'est avec un T-O, pas T-A-U.
Ah oui, et en anglais, t'as pas cherché ?
Je n'ai pas cherché en anglais. Et ce brave Denis, il va s'éprendre de la voisine, qui est une femme d'une quarantaine d'années et d'un certain poids, mais qui a le grand avantage d'être OBE, c'est-à-dire Order of the British Empire. Donc c'est une... Voilà, elle travaille pour les flics un petit peu. Et à partir de là, l'auteur va distiller avec une très grande habileté les petits détails que le lecteur, lui, va apprendre à la lecture de chacune des lettres que les deux personnages, donc principaux, vont échanger avec leurs correspondants. Alors pour Gilles, il y a sa mère, son amant, bien sûr, et une de ses amies. Pour Denis, c'est son frère, une de ses anciennes maîtresses communes avec ce frère-là, puis une autre femme un peu plus tard. Et petit à petit, tout en lui racontant une histoire qui va devenir de plus en plus sombre, Bill James fait une critique féroce de la upper middle class. Alors en français, il y a un terme,
classe moyenne. On est au milieu et puis après on va juste au-dessus.
Classe moyenne supérieure.
Voilà.
Upper middle class.
Entre cadre moyen et cadre supérieur, voilà. Je suppose.
Upper middle class, je trouve que ça sonne un peu mieux. Donc de cette upper middle class dans les banlieues chics, avec leurs prétendues valeurs, qui sont bien vite passées à la trappe, dès qu'ils en ont besoin, leur mépris pour les petites gens, et la fausse compassion pour les événements du monde. Au final, en fait, il est quasiment question que de sexe dans ce roman, bien qu'on en parle quasiment jamais.
Ben pour quelqu'un qui taille des arbres, voilà. Peut-être que ça se comprend.
En forme de cormoran en même temps. Hein.
Oui.
C'est brillamment réalisé, jusqu'à la fin, jusqu'aux fins même en cascade, qui surprendront grand nombre de lecteurs. Il y a un vrai côté suranné, qui est complètement revendiqué par Bill James, et pourtant, malgré donc ce côté un peu vieillot, ce côté épistolaire, le roman reste très très vif, très animé. On s'ennuie pas une seconde. Les femmes du roman, en fait, il y a beaucoup d'humour. De l'humour anglais et parfois extrêmement vachard et de l'humour plutôt féminin.
Oui, tu avais commencé les femmes du roman. Est-ce voilà. Qu'on s'en moque beaucoup des voilà, femmes dans ce roman?
Parce qu'en fait, les femmes du roman, évidemment, que vous avez entendu, d'après ce que j'en ai déjà dit, c'est absolument pas des modèles de vertu, mais les hommes dans ce roman sont pleutres et inconsistants.
Il y a pas un petit côté Desperate Housewives?
Ouais, ça ressemble, non.
Non.
Enfin, oui, vaguement, parce que ça se passe dans des quartiers chics.
Oui, tu
anglais,
parles de femmes désœuvrées.
Voilà, de femmes désœuvrées qui prennent des amants. Effectivement. Mais c'est très, très anglais, hein. Et c'est ce que j'allais préciser d'ailleurs, parce que si les femmes sont pas des modèles de vertu et les hommes sont pleutres et inconsistants, je rappelle que ce roman se passe en Angleterre. Donc, il ne nous concerne absolument pas, nous, Français, de la Côte d'Azur ou d'ailleurs, ou ceux qui écoutent l'émission sur Internet, je sais pas, à Tataouine ou à Mourmansk.
Mais la promenade des Anglais n'étant pas loin,
voilà.
Je
ben voilà, en fait, il y a quelques Anglais aussi. Dans
voilà.
Le... Voilà. Donc, les lettres de Carthage qui se passent en Angleterre sont publiées dans la collection Rivage Thriller. C'est un roman de Bill James.
Voilà. Et maintenant, c'est de la musique anglaise que l'on va écouter.
Maintenant, c'est en quelque sorte de la musique anglaise, puisque le groupe qui va chanter maintenant s'appelle Little Bob Blues Bastard. Mais évidemment, ce Little Bob, c'est Little Bob de Little Bob Story, Robert Piazza, et il est avré. Le morceau qu'ils vont chanter est extrait de leur nouvel album, un album de blues qui sort ce 17 octobre, et il s'appelle Circumstances. Et c'est une chanson, bien sûr, de Captain Beefheart.
Won't you find out the circumstances?
Voilà, pour le plaisir d'entendre Jacques avec son magnifique accent anglais, on va lui demander de répéter le titre du morceau.
Circumstances par Little Bob Blues Bastard. Et je voulais juste préciser que l'harmoniciste qu'on entend vraiment beaucoup dans ce morceau, et d'ailleurs dans tout le disque, s'appelle Mickey Blow, et qu'il a joué en son temps, il y a déjà un moment, avec le regretté Johnny Thunders.
Des guitares? Non, je dis n'importe
quoi. Non, c'est pas, c'est pas le Thunders comme l'orage.
Ah, pardon. Ah oui, TH. Le tonnerre, pardon. Oh là là. Ben, j'ai intérêt à...
Celui des New York Dolls, pour tout dire.
Voilà, j'ai quand même intérêt à réviser mon anglais, parce que le titre du livre dont je vais vous parler, traduction d'un titre américain, Blood Hollow, est traduit en français par Blood Hollow. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est un roman...
Et non, en fait, on dit Blood.
Exact, oui. C'est un roman de W. Kent Kruger, comme ça il n'y aura personne pour me redire sur mon accent. C'est un roman paru au Cherche Midi Éditeur, il y a très peu de temps. Et c'est un texte traduit par Sophie Aslanide. Et j'avais parlé donc d'un roman américain, là on parle dans le Minnesota. Alors comme je sais que les Français sont pas très très forts en géographie, je situe, c'est au nord des États-Unis, très au nord. D'ailleurs, pas très loin des endroits où se passe ce roman, il y a Fargo. Vous avez peut-être les images du film des frères Coen dans la tête. Et d'ailleurs, on va couvrir plusieurs saisons. Quand le roman commence, on est au 1er janvier, les lacs sont gelés, la neige recouvre tout. Quand vous tournerez la dernière page, la lumière de juillet illuminera les rives du lac. Entre-temps, nombreux drames dans la toute petite ville d'Aurora, enfin petite, oui, ça paraît petite ville, mais bon, toujours pareil, les distances aux États-Unis.
Une ville américaine.
Voilà. Petite ville d'Aurora, 1er janvier, plutôt 31 décembre dans la nuit, la disparition de Charlotte Kane, donc la nuit de la Saint-Sylvestre. Charlotte Kane, qui est la fille unique d'une des familles les plus riches de la bourgade. Cork, dont le véritable prénom est Corcoran, et donc diminutif Cork pour ses amis. Comme il est l'ex-shérif de la ville, il aide toujours et il participe aux recherches. Rien n'est trouvé la nuit de la Saint-Sylvestre. 4 mois se passent, le corps de la jeune femme est retrouvé. À la fonte des neiges, bien évidemment. Sa motoneige n'est pas loin, des indices bizarres. Est-ce qu'elle a chuté de sa motoneige? Et donc, c'est tout simplement un accident terrible. Faut dire que on soupçonne qu'elle a un peu bu. Ou bien est-ce un meurtre? Et très vite, tous les indices concordent pour accuser, très vite, trop vite, l'ex-petite amie de Charlotte, qui s'appelle Winter Moon. Et évidemment, à part la maman de ce jeune homme et Cork, il trouve peu de monde pour le défendre. En fait, je dis évidemment, moi je le sais, mais il faut savoir que Winter Moon, c'est un Ojibwe. Alors là aussi,
un Indien,
excusez-moi,
donc.
Voilà, on va dire un Indien. Et le racisme, si on en a beaucoup entendu parler dans le sud des États-Unis, eh bien, il est largement pas absent du Grand Nord. Cork, lui, il est aussi à moitié indien. Et donc, il a plutôt tendance à faire confiance à son instinct et à certaines choses qui se passent dans sa tête et dans ses yeux. Et il va faire un peu confiance à Winter Moon. Donc, il va entamer une enquête longue, épuisante. Il va tenter d'innocenter Moon. En même temps, la femme de Cork, Jo, qui est avocate, va l'assister. Elle va se rendre en prison, aider Winter Moon. Et puis, tout d'un coup, un peu bizarre d'ailleurs, ça fait un peu drôle, mais ça va permettre peut-être un peu de dériver l'attention du lecteur qui va se laisser encore happer plus vite par les nombreux rebondissements qu'ils vont avoir à la fin du roman. Il y a des événements mystérieux qui se produisent. Des sortes, on va dire, de miracles, évidemment. Il n'en faut pas plus pour des Américains croyants et crédules, un pléonasme un peu, pour crier au miracle et accourir pour voir le nouveau Messie. Tout le monde est dépassé par les événements, à commencer par Cork. Et Cork, lui, il est éloigné depuis très longtemps des églises de toutes sortes. Cork va enquêter envers et contre tout, au risque de mettre toute la ville à dos. Alors ce roman, voilà, on se pose souvent la question, thriller, roman noir, en gros la question ne se pose pas. C'est avant tout une intrigue très bien ficelée, dont les rebondissements étonneront même les spécialistes de suspense. Toile de fond, petite ville du nord des États-Unis, puritaine, engluée par le racisme envers les Indiens, que leurs ancêtres ont massacré, puis enfermé dans des réserves. Et au premier plan, on a un beau personnage charismatique, plein d'empathie et d'humanité. C'est vrai que c'est des choses qu'on a souvent vues dans le roman noir, mais c'est vraiment un roman plaisant. Et puis, par contre, les grands espaces, ce grand nord, ça, c'est une originalité parce que, en général, quand on parle des États-Unis, c'est plutôt les rocheux, c'est plutôt le Middle West ou c'est plutôt le Sud. Voilà. En quatrième de couverture, on parle d'un roman écolo. Là, je préfère le terme qu'a, non pas inventé, mais qu'a importé en France Oliver Gallmeister. On est dans le nature writing et dans le bon. Voilà. Jacques, on va partir encore dans des grands espaces.
Voilà, je voulais juste préciser avant que c'est publié aux éditions
du Cherche-Midi. Je crois l'avoir dit au début, mais je suis pas sûr. Donc, il est bon de le repréciser.
Voilà. Donc, on repart dans des grands espaces, effectivement, avec une bande dessinée, noire, bien entendu, vous nous connaissez, de Christian Demeter, qui a fait l'adaptation et les dessins, et ça s'appelle Piège nuptial. C'est paru chez Casterman et ça vaut 18 euros. En fait, ce Piège nuptial, c'est le fameux cul-de-sac, le premier roman de Douglas Kennedy qui était initialement paru à la série noire, qu'une réédition chez Bellefond a transformé en Piège nuptial. Christian Demeter, on en a déjà parlé ici, pour son adaptation magnifique et très onirique de Shutter Island, le roman de Denis Lehen dans la collection Rivage Casterman Noir. Bien sûr, cette BD, elle est publiée chez Casterman, mais pas dans la collection Rivage Casterman Noir, puisque l'original est paru chez des éditeurs concurrents. Je vous propose donc de découvrir, en version bande dessinée, les aventures de Nick, un jeune journaliste américain, dans le Deep Bush australien, à 1000 miles de toute terre habitée, aurait pu dire Saint-Ex et son petit prince. Mais ici, pas de moutons, plutôt des kangourous, des roues, comme ils disent, dans la petite communauté de Wallanup. Et ils s'en sont fait une spécialité de viande de boucherie. Alors pour revenir à Nick, il se laisse séduire dès le début par la très entreprenante et, il faut bien dire, très sexy, les dessins, vous le verrez, Angie. Et quelques cases plus loin, il se retrouve marié.
Dans une case,
sans vraiment s'en être rendu compte, à cet ange blond. Ange, le mot est à vraiment mettre entre guillemets. Et par là même, il se retrouve dans une galère sans nom. Du coup, devra-t-il aller pour espérer s'en sortir? Je vous laisse le découvrir. Si, bien sûr, vous n'avez pas encore lu le roman cul-de-sac avant.
Et ou mais alors, c'est tout aussi intéressant de découvrir si la BD. Voilà.
Ou alors le découvrir dans la BD, parce que si vous l'avez lu, je pense pas que vous l'avez oublié. Et même les pinceaux, qu'on pourrait dire savamment colorés de Christian Demeter, n'atténueront pas beaucoup le calvaire de Nick. L'adaptation est tout à fait superbe, à l'instar de la couverture, c'est ça qu'on découvre tout de suite quand on a un livre, qui nous plonge tout de suite dans le bain. Un homme étendu sur un matelas vraiment crasseux, dans une cabane en bois, a priori, avec deux personnages, un homme et une femme, qui le regardent sans la moindre aménité. Puis on ouvre la BD, et là, à chaque case des 120 pages, où l'orange et l'ocre sont les couleurs dominantes, chaque case fait ressentir au lecteur la chaleur, la touffeur des lieux, mais aussi, alors à ce moment-là, on passe plutôt dans les vers sombres, la détermination, disons, malsaine des chefs associés, des chefs de ce clan, associés à la veulerie, à la lâcheté des autres membres. C'est hors du temps, hors du monde civilisé, et pourtant, tout semble bien réel pour Nick. Il n'y a pas que les couleurs dont je parlais qui rendent ce récit juste, c'est aussi la trogne des personnages. À part Nick et Angie tout au début, alors qu'elle est en chasse d'un homme, personne ne semble absolument normal.
Même pas les kangourous,
il y en a beaucoup aussi.
Oui.
Finalement, en fait, je parlais de Shutter Island, et il y a pas mal de ressemblances entre l'univers de Shutter Island, de Denis Lehen, la prison, l'hôpital psychiatrique, sur une île d'où une personne ne peut s'échapper, et cette ville, enfin ce patelin,
Cette secte
en Australie, dans laquelle Nick semble condamné à passer le reste de sa vie à réparer des camions et à tuer des kangourous.
À écarrir des kangourous.
Donc en fait, c'est sûr, ça risque de nous donner quelques hésitations devant notre prochain steak de kangourous, si tant est qu'on en ait un bientôt. Mais par contre, aucune hésitation devant la lecture de cette bande dessinée, qui est absolument à recommander pour tous les amateurs du genre noir en bande dessinée.
Donc on rappelle vite Casterman
de Christian Demeter, adapté de... Douglas Kennedy, piège nuptial.
Et voilà, amis humains, chacun dans son coin avec un bouquin. Bye bye.